qu'est-ce que je peins?
Peut-être un message. Faites vos éclairs vous-même. Nous, on aimerait aller à la plage. Quelle toupie!
Les bourgeois n'ont jamais rien inventé!
Les bourgeois!
Attends. Je voudrais te demander un truc. C'est pas très normal.
On s'en fout d'être normal.
Does it make you remember anything?
Mais j'ai bien compris, hein, bien compris. Tu me prends et tu me jettes comme un vieux mouchoir.
Pourquoi vous n'avez pas donné plus d'explications?
Celui qui parle vraiment sent s'imprimer sur sa langue le goût aigu du piment et la douceur de la mangue.
C'est bon, tu l'as assez, range ton cahier.
À rebrousse-poil, quelques pas d'exploration documentaire.
Tu m'entends là?
Ouais, ouais.
Et si je croque des chips? Tu m'entends bien? Il était une fois, j'avais 23 ans, aujourd'hui j'en ai 37. Déjà ça, j'étais avec un homme qui avait 10 ans de plus que moi. 2 ans après notre rencontre, je me suis rendu compte, par surprise, qu'il était surendetté. Il avait oublié de me le dire. Donc, on a eu cette opportunité-là, de demander une mutation pour les îles. On a reçu un coup de fil un matin, où on nous dit, voilà, est-ce que vous voulez partir à Tahiti? Et on a eu 2 mois pour partir. Et au début, on devait rester 2 ans. Au bout de 2 ans, on s'est dit, on va rester 4 ans. Et entre-temps, je suis devenue maman. 3 mois après notre arrivée là-bas, j'étais enceinte. J'ai commencé l'école infirmière. Ce qui m'a choquée en arrivant en Polynésie française, c'est d'entendre les Polynésiens parler de leurs grands-parents. En 1960, il y a eu 193 essais nucléaires. Chaque essai nucléaire était équivalent à 2 fois Hiroshima. Mururoa, c'est une des îles. Alors la Polynésie française, c'est grand comme l'Europe. C'est un territoire donc immense. C'est une zone militaire évidemment stratège pour la France, très intéressante. Sauf que ils ont menti aux Polynésiens. Ils sont allés là-bas en leur expliquant que la population courait aucun risque. Et en fait, ils ont donc fait leurs 193 essais nucléaires. Aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est qu'il y a une grosse faille sous-marine qui est en train de se réouvrir. Que les îles qui étaient habitées auparavant ne sont plus habitées, donc on leur a volé leurs terres, on leur a volé leur culture, on les a pris pour des cons, parce que du coup, ces gens-là, aujourd'hui, ont développé des cancers, pour certains. Et le pire, c'est qu'entre les essais nucléaires de 1960 qui ont eu lieu en Algérie, au Sahara et en Polynésie française, il n'y a que 19 dossiers qui ont été pris en compte par la France. Ça veut dire que la Polynésie, tu as quand même 7000 dossiers en attente. Et que 19, dont les Algériens, ont été pris en compte. Et après, tu as en effet le président de la République qui vient s'excuser et dire, bon voilà, la France s'excuse. Il y a une dette de la France. La France donne de l'argent à la Polynésie française. C'est la dette à vie, on appelle ça comme ça, pour les essais nucléaires. En fait, c'est totalement injuste, parce que quand tu vas vivre là-bas, tu te rends compte que les pauvres Polynésiens qui ont subi ça, ils n'ont aucune prise en charge, aucun changement dans leur vie. Le grand-père qui a eu le cancer, il a son cancer, il n'a eu aucune indemnisation dans la réalité. Mururoa reste toujours inhabité, les séquelles, les conséquences, elles sont là. Et le pire, c'est que tout l'argent qui est donné au niveau des ministères. Les ministères, c'est géré par des gens de pouvoir. Et le pouvoir, il est bien gardé. C'est-à-dire que le Polynésien, en fait, il ne voit pas du tout passer l'argent. Les écoles, on est loin d'avoir les mêmes avantages qu'ici. L'hôpital, on est loin d'avoir les mêmes soins, la même espérance de vie qu'ici. Tout est très différent. Par contre, c'est le super club de vacances de tous les métropolitains fonctionnaires. C'est-à-dire qu'autour d'un rond-point, par exemple, tu peux avoir 5 gendarmes habillés en short pour te regarder, pour voir si ta voiture est en bon état, en sachant qu'il n'y a pas de contrôle technique. Par contre, ils sont 5 à être là et à te regarder, tourner autour de ton rond-point. Tu peux avoir des médecins qui sont payés 100 000 francs pour faire une garde le dimanche. En un dimanche, ils gagnent 100 000 francs. Le SMIC polynésien, il est à 140 000 francs. Donc, ils gagnent un SMIC quasiment en un dimanche. Les fonctionnaires, moi, mon ex-mari, il est informaticien. Il est informaticien, il touche 5 050 euros sans les primes par mois. Comme on était mariés, on s'est mariés pour qu'il ait le droit de rester plus que prévu. Normalement, il avait 4 ans maximum. Là, il y est pour 6000 euros donc, par mois, quasiment, en comptant les primes à vie. Et il y a plein de gens, plein de profs aussi à la retraite. Donc, le nombre de fonctionnaires qui se touchent des 5000 euros, des 10 000 euros par mois, c'est énorme. Ça veut dire que, ben, moi, je trouve ça écœurant, parce que pour revenir à la colonie française, on fait croire qu'il y a une dette à vie, qu'en effet, on s'excuse. Mais pour moi, Tahiti, c'est comme une femme. C'est-à-dire que, en plus, dans les légendes polynésiennes, souvent, la nature et l'homme sont liés. L'homme est vraiment lié à la nature, et on compare souvent certaines îles à certaines femmes. Comment dire ? C'est comme un viol là-bas. C'est-à-dire qu'on est allé sur le territoire, on a balancé 193 fois, deux fois Hiroshima. On les caresse dans le sens du poil en disant « mais ouais, vous êtes généreux, vous êtes souriant, vous êtes bien gentil, c'est bien ». Et on leur fait croire qu'on va les aider, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est très hypocrite. Voilà, c'est très hypocrite. Je me suis amusée parce que là, j'ai eu un an d'arrêt maladie. Au bout d'un moment, au bout de 12 ans à Tahiti, voilà, j'ai fait un an d'arrêt maladie. Mais en fait, j'ai fait un texte qui s'appelait « Tes proutes » ou « Tes proutes » parce que là-bas, on roule les R. Hein. Donc j'ai fait « Tes routes » ou « Tes routes ». Que tu sois proutes ou que tu sois proutes, en fait, peu importe, tu proutes dans les deux cas ou tu proutes dans les deux cas. En gros, c'est ça. Hein. Et après, t'as les « routes jacuzzi » et les vrais « routes ». C'est-à-dire que le vrai « routes », il a en effet sa vieille rasta, il a son barbecue, il a les pieds dans la terre, il sait vivre avec pas grand-chose, il est heureux, il prend la vie avec patience, il peut passer 3 heures à pêcher et à être content même s'il n'y a pas de poisson à la fin. Là, c'est le vrai « routes », et puis qui sait vivre simplement et avec beaucoup de... Comment dire ? Qui est humble, quoi, qui est simple. Et t'as le « routes », jacuzzi, j'appelle ça, c'est-à-dire que c'est le dreadlocks blond qui ouvre un petit bar lounge, qui se la fait soirée reggae, qui invite tous les riches bobos de métropole pour des soirées un peu VIP. T'as beaucoup ça en Polynésie, ouais. T'as les soirées roots jacuzzi, voilà, avec le côté frime. Donc t'as tous les internes de l'hôpital qui se rejoignent pour leur soirée bourgeoise. T'as tous les profs qui se rejoignent pour leur barbecue bourgeois. Alors c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Et t'as le Polynésien à côté qui vit aussi à sa façon. Et après on va faire croire au Polynésien qu'en fait, il a besoin de tous ses fonctionnaires pour vivre. Parce que sinon il n'y a plus de pouvoir d'achat. Sauf que moi, mon ex qui a 6000 euros par mois... enfin 5050 euros sans les primes, si tu veux, si tu divises son salaire par deux, c'est juste donner la moitié à quelqu'un d'autre. Quand les gens me disent « alors Tahiti, c'était bien, mais pourquoi tu rentres ? Il y a du soleil là-bas. » Ouais, il y a du soleil, ouais. Mais, voilà, il y a toujours le mais, et après je leur dis « je suis désolée, hein, je vous ai pas donné l'image du tout du paradis sur Terre, mais c'est ça que j'ai envie de renvoyer. J'ai pas du tout envie de dire « c'est super, c'est génial, c'est... » Même le tourisme, il n'est pas développé comme il faudrait là-bas. C'est un truc de malade. T'as un lagunarium qui ressemble à rien, qui est dirigé par un hôtel avec des propriétaires chinois. T'as une grosse part de la population chinoise aussi là-bas. T'as aucun resto polynésien. T'as pas de repas traditionnel polynésien. C'est soit chinois, soit métropolitain. En fait, le polynésien, quand tu vis là-bas, tu dis « mais il est où ?» Ben, il est où ? Il est chez lui, il est tranquille, il continue de sourire, d'être généreux, mais en fait, lui, il s'enrichit pas. Hein. La dette à vie pour s'excuser du nucléaire, il le voit pas passer. Hein.
Prouts, roots, roots, prouts. La question est, tu es roots, prouts ou tu es roots, prouts ? Le re de la rota, le re de là-bas. Tu as les roots, prouts, les roots, prouts, les roots, jacuzzi. Tu as les prouts vrais, les prouts, prouts. Les roots, roots, les roots jacuzzi aussi. Finalement, que tu sois roots jacuzzi ou roots de là-bas ou roots jacuzzi aussi, dans tous les cas, tu proutes aussi. Tu proutes roots ou tu proutes roots, tu roots proutes ou tu roots proutes. Un prout reste un prout, un prout reste un prout. En revanche, un roots jacuzzi est un roots jacuzzi. Un vrai route restera toujours prout.
C'est officiellement un territoire d'outre-mer, officieusement une colonie. Officiellement un territoire d'outre-mer. Et d'ailleurs, les Polynésiens sont fiers d'être juste un territoire d'outre-mer souvent et pas un département d'outre-mer. J'avoue que moi, je me suis souvent posé la question, surtout les dernières années, après avoir passé 12 années là-bas, sur ce qui était le mieux. être un tome et aller vers l'indépendance en se disant bah ouais, parce que avant d'être Polynésie française, c'est la Polynésie tout court en fait. Donc rien que pour une question d'identité, c'est bien d'être un territoire d'outre-mer. Par contre, ils ont que les inconvénients et pas les avantages. Le territoire d'outre-mer n'a pas les aides sociales, n'a pas la sécurité sociale. Il n'y a pas le chômage, il n'y a pas le RMI, il n'y a pas les aides au logement. Quand on n'a rien, on n'a rien. Donc en même temps, le tome, c'est bien parce qu'on est fier d'être un petit peu indépendant, mais pour le coup, on est vraiment indépendant. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, tout l'argent qui est reversé comme dette pour le pays par rapport aux essais nucléaires, cet argent-là, il est mangé par les ministres et il est redistribué surtout pour les fonctionnaires. Donc les fonctionnaires, c'est qui ? C'est les métropolitains. Donc c'est bizarre parce qu'on nous fait croire qu'on rembourse quelque chose au territoire, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et pourquoi je dis que c'est une colonisation moderne ? C'est que par exemple, l'école où allaient mes filles âgées aujourd'hui 10 ans et demi et 7 ans et demi, l'école était de 7h30 le matin à 15h30. Il n'y a pas d'études le soir. Il n'y a pas de mercredi après-midi périscolaire gratuit. 15h30, l'école est finie. Voilà. Si tu as les sous pour mettre tes enfants dans le privé, tant mieux pour toi. Si tu n'as pas les sous, tant pis pour toi. Puis en même temps, si tu les mets dans le privé, c'est religieux. Donc moi, je ne suis pas catho non plus. Donc j'ai pas trop le choix. Donc on n'a pas les mêmes avantages sur un territoire d'outre-mer. On a juste les inconvénients. Ouais. Donc c'est une colonie. C'est plus une colonie qu'un territoire d'outre-mer. Ouais.
Et là, tu disais qu'il n'y a pas de RSA, d'aide sociale, etc. Mm. Et du coup, comment font les gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas droit au chômage ? Comment ça se passe pour eux ?
On fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'on peut vivre au chaud, on n'est pas au froid. Voilà. Il y a quand même les dernières années de plus en plus de gens sur les trottoirs. Tous les Polynésiens le disent, il n'y en avait pas avant. Avant, on ne voyait pas de gens dormir dans la rue. On vit les uns chez les autres. Et puis alors, quand on est Polynésien, l'avantage de la famille polynésienne, c'est qu'ils sont très solidaires. Et que même en ayant un boulot, les grands-parents vivent sous le même toit souvent que leurs enfants. Les enfants font les petits-enfants et on peut avoir facilement des maisons où ils vivent 3-4 générations sous le même toit. Donc, il n'y a pas le RSA, il n'y a pas le chômage, mais en même temps, voilà, il y a cette entraide familiale où ils apprennent à vivre ensemble. Et il y a le jardin. Voilà, on n'est pas obligé d'aller à Carrefour faire ses courses aussi. On peut aller pêcher, mais de moins en moins aussi. C'est de la débrouille. On voit les gens polynésiens qui se sont fait voler leur territoire, les essais nucléaires, la non-reconnaissance des maladies et la façon dont les îles et les océans ont été abîmés. Et en plus de ça, il se retrouve avec un SMIC à 140 000, alors que le métropolitain qui débarque chez lui, il touche 4 fois plus que lui, en fait. Donc, pour avoir un logement, faut voir. Mais le problème, c'est que le logement le moins cher, ça va être, par exemple, 60 000 francs pacifiques. Si on prend un SMIC à 140 000, voilà, ça fait à peu près la moitié. Quel logement t'as à 60 000 francs ? Soit une colocation, parce que t'as beaucoup de jeunes métropolitains qui travaillent à l'hôpital ou qui travaillent dans l'éducation nationale, qui, eux, peuvent se faire des colocations de maisons bourgeoises. C'est-à-dire que c'est 60 000 francs ta chambre, puis alors là, t'as la piscine à débordement, t'as le jacuzzi, t'as... Alors là, ces gens-là, ils sont heureux, hein, ils font des journées sympas sur le lagon, on appelle ça des après-midi pirogues. C'est-à-dire que tu loues une pirogue, 80 000 francs pour la journée. Donc, tu as des jeunes qui vont se payer des journées récréatives à 80 000 francs pour une après-midi, pendant que tu as des familles polynésiennes qui ont un SMIC à 140 000. Donc déjà, là, on voit l'écart énorme. Une maison pour une famille à 60 000 francs, c'est un tout petit faré, pas en dur. Hein, c'est-à-dire que c'est pas du plastique, les murs, mais presque. Et tu as une ou deux chambres. Donc, c'est la promiscuité. Voilà. Après, tu peux passer à des loyers à 80 000, 100 000, mais alors là, ça va rester très modeste et il faut avoir beaucoup de chance pour le trouver. Sinon, les trois quarts des logements habités par les métropolitains fonctionnaires, c'est plutôt des logements à 160 000, 170 000. Donc, ça veut dire que le Polynésien qui est né en Polynésie, qui ne vient pas sur un contrat de fonctionnaire, il n'a même pas accès à un logement moderne pour un prix modeste. Voilà.
T'as eu ton, ton diplôme d'infirmière, t'as commencé à bosser...
Tout est allé vite. En 4 ans, je me suis mariée, j'ai divorcé, j'ai eu 2 enfants. Pendant mon école infirmière. C'est-à-dire qu'en 2005, je suis tombée enceinte de Candice. 2006, elle est née. J'ai dû annuler une première fois mon école. J'avais fait un très bon semestre, mais je suis rentrée 5 mois en France. J'ai fait une pause parce que mon couple partait en cacahuète. Donc je suis rentrée en France 5 mois. J'y suis retournée, j'ai recommencé mon premier semestre à l'école infirmière. Et là, en fait, j'ai pas eu le temps de voir les choses passer. Comme je suis diabétique de type 1, avoir un enfant, il faut préparer la conception, soit la fécondation. Ça veut dire que 6 mois avant la fécondation, t'es déjà en train de te dire, faut que j'équilibre mes résultats. Et je m'étais dit, bah en fait, j'aurais de meilleurs résultats si je suis à l'école que si je débute en tant que jeune infirmière. Donc très vite, on a lancé le deuxième bébé. Et puis très vite, en fait, on s'est mariés, on a divorcé, bref, voilà. Donc suite à mon diplôme, j'ai démarré en tant que maman, enfin en monoparentale, voilà. On est arrivé le 1er avril 2005, c'est marrant. Dans mon travail à l'hôpital, ça a été très intéressant parce que déjà le rapport aux patients, je n'ai pas exercé en France après, alors je ne peux pas comparer, mais les patients en Polynésie, c'est comme les gens dans la rue, ils sont généreux de nature. Voilà, facilement, ils vont ouvrir leurs portes et puis leur cœur aussi. Ce n'est pas des gens qui vont se plaindre, qui vont dire, ils se plaignent pas pour leur douleur en fait. Voilà. Moi, je suis un peu comme ça. Il n'y a pas que les Polynésiens comme ça. Tu as des gens qui vont exprimer leur douleur, tu en as d'autres. Ils vont garder ça pour eux. Et, voilà. Et par contre, quand ils investissent leur chambre d'hôpital, c'est assez touchant parce qu'ils amènent les tiffets-feuilles, c'est les couvertures locales qui ont été cousues souvent à la main. Donc, par exemple, quand une personne arrive, souvent elle est accompagnée par toute sa famille. Et on recouvre le lit d'hôpital avec le tiffets-feuilles. Qui vient de la maison, avec les draps de la maison. Il y en a même qui retirent les draps blancs du lit de l'hôpital pour mettre leurs propres draps. Il y a la Bible qui est posée souvent, parce que quand même, tu as au moins 90% des patients qui sont croyants. Tu as des photos, tu as des fleurs, tu as des fruits aussi qui sont offerts aux soignants. Donc ça, c'est sympa. Il y a cet échange-là. Il y a le tutoiement aussi, c'est-à-dire que tout le monde se tutoie. Donc tu tutoies les patients. C'est pas péjoratif, c'est vraiment eux nous tutoient aussi. Moi, en tant qu'infirmière, j'ai tutoyé les médecins aussi. Tout le monde se tutoie. Donc, c'est bien. Et avec du recul, je trouve ça quand même moins bien. Parce que le Polynésien, le tutoiement, il l'a en lui. Il a grandi avec, il l'a en lui. Le métropolitain qui vient vivre sur le territoire d'outre-mer, il n'a pas grandi avec le tutoiement. Et j'avoue que des fois, moi, ça m'a un peu choquée. C'est-à-dire que. Il faut savoir l'utiliser, justement, le tutoiement, et ça peut être un peu péjoratif, je trouve, quand même, parfois. Les naissances et la mort n'est pas vécu aussi comme en France. On est encore dans les années 50, là-bas. C'est-à-dire que tu as beaucoup de jeunes mamans de 14-15 ans. Donc, ici, ça va être choquant. Une adolescente qui tombe enceinte au collège, on va être un peu alerté, on va se demander comment ça se fait, on va essayer de l'accompagner, on va l'amener plus vers l'avortement. Là-bas, non, une jeune fille qui tombe enceinte à 16 ans, souvent, elle reste avec le jeune garçon. Ils vont vivre chez les grands-parents. Alors moi, j'ai travaillé en néonat, donc du coup, j'ai que ce versant-là de l'hôpital. Et puis après, j'ai mon parcours diabétique, par contre, personnellement. Mais en tant qu'infirmière, j'ai vu donc de très jeunes parents. Et puis alors des mamans plus âgées qui ont déjà 8 enfants. C'est très fréquent. Donc voilà, on est vraiment... C'est un mélange de société moderne à la française et de nos campagnes d'antan d'ici. C'est assez étrange. Et ces jeunes mamans-là arrêtent de travailler. Alors, elles ont leur premier enfant, des fois à 17, 18 ans. Elles arrêtent de travailler et elles vivent dans la maison familiale. Voilà. C'est... Comment dire ? C'est dommage aussi de voir l'évolution... Je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que les patients dans les hôpitaux ne sont pas instruits. Alors, je ne sais pas quelle est la raison, de qui vient la faute, je ne le dirai pas. Mais les patients ne sont pas instruits dans les hôpitaux comme nous ici. C'est-à-dire qu'il y a l'image de la blouse blanche qui est impressionnante. Pas qu'ils en aient peur, mais comme si... Alors déjà, il y a la différence de langue. En fait, la colonie française fait qu'il y a quelques années, on interdisait aux gens de parler polynésien. Ils étaient dans l'obligation de parler français. Voilà. Les écoles, donc, ont appris à toutes les dernières générations le français, mais les grands-parents, eux, parlaient polynésien. Maintenant, aujourd'hui, il y a toujours le parler polynésien. C'est revenu, encore heureux, c'est plus interdit de parler polynésien. Mais du coup, on se retrouve face à une culture différente dans les hôpitaux où il y a quand même les trois quarts des soignants qui ne sont pas polynésiens, mais métropolitains. Donc on doit s'adapter à eux par rapport à leur culture, par rapport aux différences de la langue. Et eux, ils ont une image de la blouse blanche qui fait que quand on va leur expliquer leur maladie, ils ne vont pas forcément nous poser plein de questions, ou alors ils vont poser la question, ils ne vont pas comprendre, mais ils ne vont pas nous dire qu'ils n'ont pas compris. Et des fois, tu peux demander à une dame, alors ton mari, il a été opéré du cœur, il avait quoi comme maladie? Elle va dire, bon, je ne sais pas, moi, c'était le cœur. Voilà, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter là. Et ça, c'est dommage, parce que forcément, le patient n'est pas le même qu'en métropole, du coup. S'il n'a pas la même instruction, s'il n'a pas les mêmes connaissances, s'il n'a pas les mêmes confiances en lui, s'il se remet entièrement entre les mains du soignant, ben forcément, on est plus mauvais en prévention. Donc forcément, on a plus de curatifs. Voilà. Il y a un gros travail sur la prévention, sur l'instruction. Et ce qui empêche ça, ça je peux le dire, c'est le jugement. C'est-à-dire que souvent, il y a quand même une partie des métropolitains, je trouve, que j'ai entendu dire « les Polynésiens sont comme ci, sont comme ça ». Mais est-ce qu'on peut prendre conscience que la Polynésie se trouve à 16 000 km de la France, qu'on n'a pas du tout la même histoire là-bas, la même culture, et que la vie moderne existe depuis bien moins de temps que nous, ici en France? Donc ça fait un gros changement. Donc il faut arrêter de soigner les gens là-bas comme si on était en métropole. C'est pas possible.
Jamais vu autant d'amputés, c'est-à-dire que le nombre de jambes de bois que tu vois à Tahiti. Le diabétique, dans l'histoire, il ramène pas mal d'argent, c'est-à-dire que les services d'amputés sont pleins, les services de néphrologie sont pleins, et les trois quarts sont amputés et dialysés. Voilà. Ça, c'est la réalité. Et alors, ce qui m'a énormément choquée, c'est les on-dit sur le diabète, c'est-à-dire les diabétiques sont fatalistes, le diabétique polynésien, il n'a pas besoin de psychologue. Il parle pas le polynésien, il n'a pas besoin. Puis quand il est amputé, de toute façon, bah regarde, il continue de sourire. Hein, donc en gros, voilà, s'il continue de sourire, ils sont cons. Hein, des fois, ils viennent même se faire amputer la deuxième jambe, quoi. Et ils bouffent mal. Moi, l'infirmière libérale qui est venue me soigner pour un abcès, elle m'a raconté une histoire. Hier, je suis allée chez une diabétique. Elle m'a dit qu'elle venait manger, elle venait de manger une barba papa. Non, mais franchement, elle me dit... Alors moi, je vais lui faire son insuline et elle mange une barba papa. Et elle me dit niaisement, ah, mais j'ai mangé une barba papa. Et moi, je l'écoutais raconter cette histoire. Et là, l'infirmière libérale me dit, tu sais quoi ce que je lui ai répondu? Je lui ai répondu que demain, je ne viendrai pas faire son insuline. La Polynésie française, à qui, soi-disant, on rembourse pas mal d'argent pour leurs dettes, pour le nucléaire, dans leur réalité, les Polynésiens, ils sont passés en 50 ans d'une vie tranquille sur leur île à une vie moderne avec plein de produits industriels. Et aujourd'hui, tu as tout ce petit cette petite troupe de métropolitains très critiques qui disent ils bouffent mal, ils vivent mal. Mais en même temps, on ne leur a pas donné le temps d'évoluer dans cette nouvelle société moderne, comme nous on l'a eu en France. Et puis surtout, on ne leur donne pas les moyens et l'instruction nécessaires pour faire face à tout ça et on ne leur laisse pas le temps. Donc on les juge mal. On a plein d'idées négatives sur eux. Et eux, comme ils sont croyants, parce que... Alors ça, c'est une petite histoire, mais j'aime bien. En 1789, c'est là que la colonisation a débuté. Le capitaine Bligh est venu avec son bateau pour investir les lieux. Alors le mec, il a fait 18 000 km pour faire une campagne anti-sodomie, quand même. C'est-à-dire que son but, c'était d'apporter la religion là-bas, de dire que les pauvres Polynésiens... qui vivaient un peu dévêtus, étaient des pêcheurs. Donc il a fait sa campagne anti-sodomie, il a apporté la religion. Et les Polynésiens aujourd'hui vivent bien leur religion, parce que je trouve qu'ils ont un attachement à la nature et une spiritualité et une solidarité intrafamiliale qui leur permet de vivre la religion avec spiritualité. Voilà. Mais il y en a une grosse partie quand même qui reste... dans l'incapacité de se révolter contre quoi que ce soit, je dirais à cause de la religion. Parce que du coup, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà. Souvent quand même, c'est Dieu qui l'a voulu. Il faut rester courageux, il faut sourire, faut faire avec ce qu'on nous donne dans la vie, et puis voilà. Pour faire le lien avec ce que je viens de dire aussi, c'est... Imaginons, on a une maman qui a 16 ans, et puis qui en est à son premier ou son ou 18 ans, son premier ou deuxième enfant. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Elle vient d'une famille où elle habite à 30 km, par exemple, de l'hôpital. Mais la caisse de prévoyance sociale peut lui obtenir une chambre d'hébergement que si elle habite à la presqu'île, donc à 50 km de là. Donc elle se retrouve à venir le matin, du coup, la petite maman de 16 ans, avec son scooter, ou alors profiter de la voiture du cousin ou du tonton qui va travailler sur Papété pour venir voir son bébé, dont elle a été séparée quand même de façon brutale, parce que la prématurité, c'est pas un choix. Hein. Donc forcément, c'est difficile d'être séparée physiquement de son enfant. Et en plus, t'as ce côté... La différence de revenus, comme je disais, un médecin, lui, va pouvoir... j'avais l'impression d'être face à une scène de théâtre, à quelque chose de totalement absurde. Je vois les médecins gagner 1 million de francs pacifiques ou 100 000 francs en un dimanche de garde. Et à côté, j'ai la petite Polynésienne qui vient d'accoucher, qui est toute jeune, qui n'a pas de moyens. Et il n'y a même pas une navette hospitalière pour ramener les mamans jusqu'à l'hôpital. Elles viennent par leurs propres moyens. Donc déjà, c'est ce... que ce soit en néonat, au travail ou même à l'école, c'est ces différences de revenus entre les très riches et les très pauvres qui finit par être, pour moi, inacceptable. Ensuite, c'est qu'on a une petite troupe d'infirmières qui étaient mes collègues. Alors, il y a deux styles. Il y a le style des infirmières d'un certain âge qui travaillent là-bas depuis 30 ans. Et alors, j'ai du mal parce que en fait, elles font pas évoluer beaucoup leur service, mais ça, je pense, c'est dans tous les milieux. Hein. Donc, le problème, c'est que c'est pas ces vieilles infirmières polynésiennes qui vont faire bouger leur service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un hôpital pour un territoire grand comme l'Europe perdu dans le Pacifique. Et elles sont polynésiennes, elles ont grandi là-bas. Donc, ce serait plutôt aux trois quarts des métropolitains qui viennent de métropole d'apporter certaines exigences de soins. S'il y a une dette de la France, ce serait bien celle-là, je trouve. Plutôt que de l'argent redistribué pour les ministres, ce serait d'assurer la même éducation aux enfants et surtout les mêmes soins. D'avoir une exigence, parce que là, on donne l'argent au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé en fait ce qu'il veut. Mais la moindre des choses, en fait, tu vois, ce serait que... Il y a une exigence sur les soins, qu'on contrôle les dossiers de soins, qu'on demande mais pourquoi on arrive à tel résultat en métropole et pourquoi chez vous on arrive à tel résultat. Et en même temps, il y a toute une partie de jeunes métropolitaines qui viennent faire des petits contrats. C'est des CDD de 1 an, de 2 ans, de 3 ans qu'elles renouvellent et elles s'installent dans le service. Ça peut durer même jusqu'à une dizaine d'années. Et là, elles arrivent un petit peu, j'avoue, pour certaines, avec les chevilles bien enflées, parce que mesdames arrivent de métropole. Alors déjà, dans le milieu paramédical, je trouve souvent on a quand même les chevilles un peu enflées, avec un côté, on a trop regardé urgence et on se prend pour Zorro. Donc ça m'exaspère un petit peu, parce qu'on est à fond dans le technique, et finalement, l'humain, on passe un peu à côté. Donc finalement, tout le technique, il est pourri, parce que si on ne prend pas compte de l'être humain qu'on a en face, le technique, ça va pas servir, ça va échouer. Donc du coup, on est face à des petites jeunes métropolitaines qui viennent avec tous les avantages financiers, c'est-à-dire leur petite vie en colocation, pas les soucis de famille, elles sont là-bas pour faire la fête, c'est un peu à la Beverly Hills, voilà, elles vivent dans des colocations à 4-5, où elles payent 30 000 francs ou 35 000 francs leur chambre, et elles ont des salaires de 250 000 francs à peu près. La petite jeune dont je parle, qui vient en néonate, qui a perdu son bébé parfois, parce que ça se finit aussi par certains décès, elle est dans quelque chose d'énorme dans sa vie personnelle. Et à côté, t'as la jeune métropolitaine qui, alors mon Dieu, arrive fatiguée parce qu'elle a trop fait la fête la veille, parce que madame, elle en a son troisième voyage dans le mois, tu comprends, c'est épuisant. Ou alors, mon Dieu, elle a loupé le dernier salon du tourisme et elle n'a pas pu avoir le billet d'avion le moins cher. Donc on se retrouve entre, encore une fois, c'est l'argent, moi, qui me... On dit que l'argent fait pas le bonheur, je suis pas d'accord du tout. Je pense qu'on peut vivre avec pas grand-chose. Mais notre société fait que... Si, quand même. Enfin, quand tu vois la niaiserie de certaines jeunes femmes très riches prendre en charge certaines jeunes femmes, pour le coup, très touchantes, parce que la Polynésienne, elle va pas se plaindre, elle va rester avec le sourire. Elle va pas critiquer non plus ce qu'elle ressent. Mais par contre, moi, parfois, on m'a dit... J'ai entendu ta collègue expliquer que... vivement que la journée elle se termine ou que ce matin-là, elle avait pas du tout envie de prendre en charge tel bébé. Sauf que moi, elle parlait de mon bébé en fait. Donc t'as des Polynésiens qui sont tout tendres comme ça en face, et puis t'as d'autres métropolitaines qui viennent en club de vacances. Voilà, et c'est ce côté-là, c'est cette colonie-là qui est violente à vivre. Je parle beaucoup en mal, soit les métropolitains, soit les Polynésiens. J'ai oublié une troisième partie, c'est ceux qui s'autocolonisent. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie quand même de Polynésiens qui ont profité. Il y a eu du métissage et c'est très bien. Il ne faut pas que ce soit pris comme raciste. C'est pour ça que je ne sais pas utiliser les bons mots. C'est pas ça du tout. Tant mieux qu'il y ait eu des mélanges, mais il y en a, moi je les appelle les... C'est un peu brut, mais les suceuses à flosse. Les suceuses à flosse et les suceurs à flosse. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de Polynésiens qui, au lieu de se révolter, restent très généreux, très souriants, très « c'est Dieu qui l'a voulu », pas du tout dans la révolte. Donc là, moi, j'aurais envie de secouer les gens et de leur dire « oh, votre côté guerrier, là, le AK, c'est passé où ?» Parce qu'en fait... On vous caresse dans le sens du poil, on dit vous souriez, c'est bien, en fait ça se transforme en niaiserie, c'est même pas de la générosité, c'est de la niaiserie des fois. Et puis si on vous pousse, on a envie de leur dire, bah réagissez. C'est-à-dire que tous ces patients-là à l'hôpital que j'ai pu rencontrer ou ces gens, il faut aussi qu'ils se bougent un peu pour se révolter. Et s'ils le font pas, c'est malheureusement parce qu'il y a une bonne partie aussi des Polynésiens qui ont profité de tout cet argent. C'est-à-dire que l'argent qui est remis au ministre... le ministre gère peut-être pas très bien cet argent-là, mais il y a toujours une tatie qui travaille à la CPS ou un cousin qui travaille à l'UNIF ou un voilà. Donc il y a toujours une partie des colonisés qui profitent bien aussi de leur nouveau pouvoir et de devenir des nouveaux riches. Mais il y a quand même une grande partie de la population qui reste pauvre et qui en profite pas.
Et tu peux préciser qui c'est, Floss ?
Floss, c'est l'ancien président de Polynésie française, qui était très copain avec Chirac à l'époque, et qui a fait beaucoup bouger la Polynésie dans le sens des infrastructures. Tout le monde dira en Polynésie française, mais je ne saurais pas dire de quelle année il était au pouvoir, on va dire, président de la Polynésie française. Mais en tout cas, quand il était là, il était de droite, au niveau infrastructure, au niveau de papeter, de belles mairies ont été construites, de beaux bâtiments, il y a eu des bons projets, il y a eu... Donc les gens ont dit, bah, bravo, c'est bien, mais j'ai envie de dire, c'est normal, c'est un peu son boulot. Enfin, à la limite, s'il n'est pas capable de faire ça, on ne veut même pas de lui. Sauf qu'au passage, les dernières nouvelles que j'ai eues de lui il y a 2 ans de ça, dans le journal, il était écrit qu'il était encore poursuivi parce qu'il avait volé 2 millions de francs pacifiques concernant sa vaisselle. Donc, et les gens lui en veulent pas parce qu'en fait, bon, Floss, il a quand même beaucoup aidé le pays, donc s'il a volé des milliards, c'est pas grave. Voilà ce qu'on entend. Après, il y a le côté indépendantiste, c'est assez comique, c'est qu'après Floss, il y a eu Temaru. Donc lui, il est indépendantiste, mais alors, la dernière chose, moi, qui m'a choquée, il a fait faire quand même un golf au-dessus de la commune de Faa'a. Faa'a, c'est... Il était ancien maire de cette commune-là, c'est la commune, une des communes les plus... bidonville, les plus pauvres. Quelle idée de faire un golf dans la commune la plus pauvre et en plus à côté des ordures, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc il se fait passer lui aussi pour quelqu'un de socialiste ou d'indépendantiste, mais finalement, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, très sincèrement... Dernièrement, il est allé ici en Corse, rencontrer les parrains corses. Donc, il amuse un peu tout le monde, parce qu'on se dit, tiens, il est où, Temaru ? Ben, il est en Corse. Il est où ? Ben, il est en train d'inscrire le pays sur la liste des pays à décoloniser. Il est à New York. Donc, le gars, il est quand même, à la base, fonctionnaire à la douane. Ensuite, il devient président indépendantiste. Mais il passe son temps à aller à New York ou à aller en Corse. Et il fait faire un golf dans la commune la plus pauvre. Et sinon, donc, on avait Floss qui, lui, aidait un peu le pays, mais volait 3 milliards au passage. Voilà. Donc, je ne sais pas lequel vaut le mieux, très sincèrement. Voilà. Et par contre, quand c'est les élections, c'est assez comique. C'est-à-dire que ceux qui sont pour Floss, pour la droite, vont mettre un t-shirt orange, et ceux qui sont pour Temaru, pour l'indépendantiste, va mettre un t-shirt bleu. Donc dans la rue, tout le monde sait qui est pour qui, et on a l'impression qu'on va aller à un match de foot. Donc on a tous des petits drapeaux, chacun a son tricot coloré. Alors ça fait sourire, mais en même temps c'est dramatique. On se dit, mais c'est ça alors la politique. C'est-à-dire qu'ils sont là en train d'agiter leur drapeau coloré, mais au final, ils sont totalement inefficaces. Et les gens les plus pauvres, du coup, ben, ils ont raison aussi. Hein. Comme je disais, si un informaticien à l'université est fonctionnaire pendant plus de 10 ans et gagne 5050 euros sans les primes, juste pour être informaticien, moi je connais plein de Polynésiens au chômage qui devraient avoir ce poste-là. Ce fonctionnaire-là, on devrait le prendre et lui dire « mais vous retenez en... » Enfin, il y a plein de fonctionnaires qui ne sont pas utiles. Et c'est des fonctionnaires qui prennent en effet la place aux Polynésiens. Donc moi, je serais plus pour l'indépendantisme, très clairement. Ouais. Je pense que la Polynésie mérite d'être reconnue comme Polynésie, tout court, pas comme Polynésie française, et que la dette de la France, ce serait plutôt d'amener au moins l'instruction et au moins la même qualité de soins que nous, on a en métropole.
Et est-ce qu'il y a une partie de l'enseignement qui se fait en tahitien ou, en gros, le tahitien,
Alors, on appelle ça le reo maohi. En effet, c'est, je ne sais plus combien d'heures par semaine, si c'est 2-3 heures, je crois, par semaine. Donc, c'est très bien. En effet, comme je disais tout à l'heure, c'est passé une époque où on interdisait aux gens de parler polynésien, on devait apprendre le français. C'était il y a trois générations de ça, je pense. Aujourd'hui, c'est l'avantage de la Polynésie française, c'est qu'ils ont vraiment tout fait pour garder leur culture. Voilà. Et entre eux, ils parlent polynésien. À l'école, on apprend le polynésien. Les enfants, aujourd'hui, entendent parler polynésien et dans leur famille et à l'école. On a l'impression que rien ne pourra effacer leur culture. Rien. Par contre, l'inconvénient, c'est comme je disais, c'est qu'il y a un peu un excès de... Pour revenir à l'enseignement, à l'éducation, à l'école, ma fille qui a 10 ans et demi, là, n'a pas eu de cours d'anglais pendant un an parce que le directeur d'école était contre. Il a demandé à la maîtresse de n'apprendre que le tahitien. Donc ça, pareil, j'estime que si on veut instruire les enfants comme en France, il faut faire un effort. C'est-à-dire que ce monsieur directeur est payé par l'éducation nationale et qu'en tant que directeur travaillant pour l'éducation nationale pour la France, son devoir est d'apporter les mêmes savoirs à ses enfants. Il veut apprendre que le tahitien, il peut apprendre que le tahitien. Personne ne le surveille. Il interdit l'anglais. Moi, j'ai essayé de dénoncer ça et certaines choses à l'inspecteur académique. Et ben, en fait, l'inspecteur académique est copain avec le directeur. Donc, on se retrouve vite dans un petit village où les gens bien placés, comme les directeurs d'école, etc., font un peu ce qu'ils veulent à leur sauce. Voilà. Et il n'y a personne pour les contrôler. Donc j'ai divorcé en 2010 du père de mes enfants. Et le divorce a eu lieu, s'en est suivi quelques requêtes qu'il m'a fait au tribunal pendant 3 ans. On a bien compris qu'il cherchait quand même à me maintenir plus dans un conflit que dans quelque chose de constructif pour ses enfants. Donc le tribunal est allé en ma faveur. Bref, on n'a rien changé, on fait avec, tout va bien. Sauf que le père de mes enfants travaille à l'éducation nationale. Donc le directeur de l'école de mes enfants n'a pas été pour moi très objectif, dans le sens où il a été plus copain avec le père de mes enfants que juste directeur d'école. Donc ce qui s'est passé, c'est que monsieur s'est carrément a fait de l'excès de zèle, puisqu'il s'est imposé en m'expliquant que chez lui, c'était comme ça, et que j'avais l'obligation de rencontrer mon ex-mari lors d'une réunion d'école. Toute l'année, le centre de la mère et de l'enfant me dit, écoutez, évitez toute médiation avec le papa. Donc j'étais prise entre un centre de la mère et de l'enfant qui me donnait des conseils et une école qui ne voulait pas appliquer ces conseils-là. Et en fin d'année, je demande un rendez-vous. Le temps passe. J'attends ma barquette de frites au spectacle de fin d'année. Je crois plus du tout avoir une réunion puisqu'on est au spectacle de fin d'année. Et là, la maîtresse vient vers moi et me dit, vous avez rendez-vous après-demain avec le papa. Donc vu que le papa me dévalorisait quand même pas mal, je rentre pas dans les détails trop personnels, mais j'explique que ça va pas être possible. Je lui dis non, là je vais pas pouvoir aller avec le papa, vous connaissez quand même ma situation un petit peu. Et sur ce, un monsieur que je connais pas débarque de derrière et me dit devant tous les parents, devant toute l'assemblée, ça serait bien d'aller enfin dans le sens du père, quand même. Donc là, je me prends une vanne devant tout le monde. Les larmes aux yeux, je m'en vais du spectacle. La réunion a quand même eu lieu. Pourtant, le directeur d'école m'a vu me plaindre, m'a vu craquer dans son bureau, pleurer, dire que cette ancienne relation qui m'avait fait violence, j'avais pas forcément envie de la retrouver pendant une réunion. Cette réunion a eu lieu, donc le papa s'est retrouvé assis au milieu de l'équipe éducative. Les tables étaient en U, donc je me suis retrouvée toute seule comme devant un jury. J'ai parlé poliment en expliquant les difficultés que j'avais pour expliquer les choses à ma fille. Et là, le directeur me regarde et me dit « Si on y arrive avec 24, vous pouvez y arriver avec une quand même. » Devant le père. Et le père, pendant tout le long, a dit « Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. » Voilà, à part dire « Oui, tout à fait. » Pendant toute la réunion, il n'a rien dit d'autre. Par contre, moi, on m'a regardée comme une maman qui avait un problème, alors que la maîtresse me regarde et me dit « Mais qu'est-ce que vous nous reprochez ? Votre fille, quand elle arrive en classe, elle ne savait même pas lire. » Bref, donc ça se passait pas très bien. À la fin, j'en pouvais tellement plus que j'envoyais la garderie pour aller chercher mes enfants à l'école, pour faire en sorte de ne plus du tout voir le directeur. Ce fameux directeur qui se mettait à la sortie des classes. Alors c'est l'école, tralala, Aouya. Tout le monde comprendra, ça se finit par Aouya. Il n'y a qu'une commune qui se finit par Aouya. Voilà, donc monsieur Ping, pour pas dire le vrai nom, mais ça ressemble quand même fortement, était droit comme un piquet à l'entrée de son école et exigeait que tous les parents lui disent bonjour. C'est-à-dire qu'à chaque réunion, il nous disait quand même, je comprends pas, les parents viennent pas me dire bonjour. Ben moi, je comprends, il faudrait peut-être qu'il se pose des questions un jour. Donc, pour rentrer en France, j'ai essayé de lui demander des certificats, des attestations dont j'avais besoin, juste pour la radiation de mes enfants à l'école. Donc, rien de compliqué, hein. Il n'a jamais voulu. Je lui ai demandé un rendez-vous, il n'a pas voulu non plus. Il m'a dit, écoutez, vous avez qu'à écrire dans le cahier pour demander un rendez-vous. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit, vous êtes incompétent. Et là, il m'a dévisagé de haut en bas. Il m'a dit, est-ce que vous vous êtes bien regardé ? Donc je suis repartie de l'école avec la gorge serrée en me disant, c'est quand même plus possible. Et je suis repartie en courant à l'école. Et là, j'avoue que je me suis pas bien comportée. C'est-à-dire que je suis allée le voir, je lui ai dit « Non, non, vous allez me donner un rendez-vous. » Et quand il m'a répondu « Vous avez qu'à écrire un mot », je lui ai dit « Connard ». Et du coup, le lendemain, j'ai été convoquée à la gendarmerie parce que j'avais osé dire « Connard » au directeur. Et comme une idiote, j'ai donc parlé avec le gendarme et j'étais persuadée que le gendarme allait me comprendre. Je lui ai expliqué, voilà, le directeur m'a obligé la rencontre avec mon ex-mari, donc c'est quand même pas normal. Je lui raconte toute mon histoire. Et je me suis dit, forcément, voilà, ça va s'arrêter là. Et là, le gendarme m'appelle le lendemain, je crois. Ouais, le lendemain, ou l'après-midi même, et me dit, j'ai fait accélérer l'affaire auprès du procureur. C'est allé très vite, donc en effet, il y a un avertissement, vous pouvez venir le chercher. Donc moi, j'étais super contente, je me suis dit que le directeur avait un avertissement. Donc je suis arrivée à la gendarmerie, et avant la gendarmerie, il y a un petit centre commercial juste avant. Et je suis allée acheter des chocolats hawaïens, super bons, avec une petite cacahuète au milieu. Et je suis arrivée à la gendarmerie en disant, je vous remercie beaucoup pour votre habilité, votre professionnalisme, vraiment merci beaucoup. Et là, je vois que le gendarme, il me regarde quand même avec un petit air surpris. Il bouge pas, il me regarde et il me répond pas franchement. Et moi, je continue sur mon truc, hein. Merci beaucoup, je prends le papier qui me tend. Je dis, d'une boîte de chocolat. Mais je remarque un air bizarre. Et puis, je pars et je vais dans ma voiture. Et là, je me dis quand même, je vais peut-être lire ce qu'il y a quand même dans le papier. Et là, je vois que j'avais, moi, un avertissement. Donc, j'ai un outrage à la parole. Si jamais je récidive, je dois rembourser 7 500 € à monsieur Ping, le connard, je le redis, ou alors 6 mois de prison. Voilà. J'aimerais bien écouter ce que le gendarme a dit à ses collègues. Il y a une tarée, elle m'a amené une boîte de chocolat pour me remercier de l'avertissement que je lui donnais.
Et Et après 12 ans, qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée en métropole ?
Non, le ras-le-bol de voir toutes ces inégalités. Voilà. Déjà ça, mais pas que de les voir, c'est que je les ai vécues. Parce que moi, en tant que famille monoparentale et que maman, j'ai pas fait que voir les inégalités. Des fois, il y a des métropolitains, ils me disaient « Oui, tu sais, franchement... » Alors certains me disaient « Quand on rentre en métropole, c'est tellement horrible la France, les gens sont méchants, les gens parlent pas, c'est la guerre, il y a des racailles partout. » C'était horrible ce qu'on me disait sur la France. Et moi, je suis pas du tout raciste et j'ai grandi en banlieue. Et du coup, je comprenais pas trop cette version des choses. Toutes ces personnes donnaient une image négative de la France... Et me disait, quand on rentre en France, on revient vite à Tahiti, en fait. Parce que tu verras, c'est tellement horrible que tout le monde revient. Et puis, il y a les autres qui me disaient, Tahiti, c'est une prison dorée. Alors, je ne suis pas d'accord non plus, parce que prison dorée, ça dépend pour qui. Moi, c'était prison tout court, dorée, non. J'étais monoparentale et j'étais loin d'être dans une situation dorée. Pour autant, je n'étais pas non plus pauvre. Hein, voilà, j'ai la chance d'avoir été modeste là-bas. Sauf que, pour problème de santé... J'ai fini par perdre l'emploi que j'aimais. J'aurais pu en trouver un autre, mais j'avais plus envie. Et du coup, j'ai préféré rentrer, préparer mon retour. Bah, le diabète de type 1, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on se transforme en pancréas nous-mêmes. C'est qu'on fabrique plus du tout d'insuline. Moi, j'avais 11 ans quand ça m'est arrivé. Donc, tu t'injectes ton insuline et c'est... Ton équilibre dépend de ton bien-être général. C'est pas que l'alimentation, c'est pas que l'heure des repas, pas du tout, parce que la médecine a évolué. Donc maintenant, on a des insulines et des moyens de s'injecter des produits très stables qui fait qu'on peut manger la quantité qu'on veut, alors qu'on veut. Le problème, c'est que c'est une maladie liée à un tas d'hormones. Moi, au quotidien, vu ma vie familiale, en plus de ma vie professionnelle avec des horaires de garde de 12 heures, j'avais de plus en plus de mal à avoir un bon diabète. Et j'ai eu des hospitalisations en diabétologie qui, là, ont été une catastrophe, puisque la caisse de prévoyance sociale n'apporte pas du tout les mêmes soins aux diabétiques qu'en métropole. Et puis, comme je disais, les trois quarts finissent dialysés ou amputés. Donc voilà aussi pourquoi j'ai voulu rentrer à un moment donné, parce que j'avais des services de soins qui étaient totalement inapte à me soigner, où je suis arrivée lors d'une hospitalisation en étant par exemple très fatiguée, très déséquilibrée. On a fait tout l'inverse de ce qu'on aurait dû faire, jusqu'à m'emmener voir des photos de moignons, alors que moi-même j'avais peur pour mes pieds, que j'avais des sensations de pieds froids, que j'avais augmenté mon insuline parce que j'avais des infections. C'est-à-dire qu'on nous met face à des diapos où on nous explique les différentes façons... dont nous allons mourir. C'est-à-dire qu'on nous dit, bon, bah voilà, en tant que diabétique, vous avez donc tant de complications possibles. Donc, il y a l'infarctus, il y a l'AVC, il y a la cécité, il y a donc tout le système cardiovasculaire qui dysfonctionne, on peut vous amputer, on peut... Donc, bref, on se prend dans la gueule quand même tout ça, au cas où on n'aurait pas compris. Hein. Pourtant, ça fait des années qu'on vit avec notre maladie, mais on nous le rabâche, voilà. Et là, une petite interne me touche le pied, me dit, non, c'est bon, en gros, le pouls pédieux... Et bon, ça passe encore. Si je peux éviter quand même d'attendre que ça passe plus du tout et qu'on m'ampute, ça m'arrangerait. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais confiance en moi, je maîtrisais vraiment mon diabète, mais la pompe à insuline n'existait pas. Donc la sécurité sociale française payait mes colis de cathéter, me les envoyait. Moi, j'arrive à la douane récupérer mon cathéter, on me dit « Voilà, le colis, il est là, mais 60 000 francs s'il vous plaît ». Donc voilà, ensuite, j'ai tellement de choses à raconter, c'est pas possible. Hein. On m'a fait une césarienne pour rien aussi pour ma deuxième fille, on s'est trompé, elle n'était pas macrosome du tout, elle est née à 3,450 kg, elle aurait pu naître par voie basse comme la première, sauf qu'on m'a mal opérée, donc en fait on m'a mis un petit bout de mon utérus par erreur dans mon abdomen. Donc je me retrouve avec un endométriome, pas du tout lié à un souci hormonal, mais à une césarienne mal faite et faite pour rien. Voilà, donc je suis repartie avec les images en tête, avec une réelle détresse diabétique. La détresse diabétique, c'est quoi ? C'est quand on perd la capacité à gérer notre maladie. C'est-à-dire que on anticipe notre vie 24 heures à l'avance tout le temps avec le diabète. Mmh. Demain, je vais faire quoi? Cet après-midi, je vais faire quoi? Quelle dose je fais? Parce que si je vais courir, je vais être comme ça. Si je vais être stressée, je vais être comme ça. Donc, on passe notre temps à s'auto-gérer et on connaît notre corps et on connaît notre quotidien très bien. On est très, très vigilant. Le problème de la détresse diabétique, c'est ça, c'est quand le diabétique ne se situe plus du tout comme celui qui conduit la voiture. Voilà. Il se laisse guider par les autres, par les soignants. Et le problème, c'est que là-bas, ils n'ont aucune organisation, je trouve, de soins. Il n'y a pas d'hospitalisation de jour pour évaluer si on a un risque de complication ou pas. C'est à la demande. C'est-à-dire que si on insiste, on arrive quand même à avoir le minimum, mais il faut insister. Voilà donc pourquoi je suis rentrée en métropole. Parce qu'il y a une différence de soins offert aux Polynésiens qui n'est pas du tout la même qu'en métropole. Voilà. Et moi, je suis française, j'ai de la chance, je peux rentrer aujourd'hui. Voilà.
Et oui, du coup, justement, là, donc là, t'es rentrée, ça fait 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Mmh. Et ouais. Où est-ce que t'en es? C'est quoi tes projets? Enfin.
Alors, les projets, c'est digérer déjà tout ça. J'ai envie de faire de l'art-thérapie. Avant de faire de l'art-thérapie, il faut que je retravaille. Donc déjà, pour retravailler, il faut que je me soigne. Donc j'ai un numéro de migrante pour l'instant par la sécurité sociale. Mon projet, bah, c'est de me soigner bien, mais voilà, c'est pas grave. Faut passer par 2-3 étapes administratives un petit peu casse-pied, mais je sais que je vais y arriver. J'ai rencontré un hôpital très, très bien, où pour le coup, là, il y a une vraie organisation, il y a des vrais soins modernes, donc je suis plutôt positive. Et puis ensuite, l'art-thérapie, pour moi, c'est un projet
tu veux dire, tu veux
très
être
grand.
Art-thérapeute.
Ouais, ouais, ouais. Oui, je veux être art-thérapeute. Je vais être art-thérapeute parce que j'ai utilisé l'art, moi, pour me soigner par moments. C'est-à-dire que de faire, à des périodes difficiles de ma vie, j'ai dessiné, j'ai fait du modelage, j'ai écrit, j'ai slamé toute seule. Mais en fait, ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai parlé, donc, en étant infirmière avec des gens qui ont subi des greffes ou des cancers et qui m'ont dit, il y a 50% de leur traitement, c'est pas les soins techniques, c'est vraiment le soutien artistique, le soutien psychologique, le soutien artistique, ça se dit pas, mais le fait d'avoir un exutoire, voilà, le fait de pouvoir s'exprimer, le fait de pouvoir créer. Et quand on est dans la créativité, on est dans la vie, en fait. Et nous, en tant qu'art-thérapeute, on est là justement pour observer si la personne réussit à être dans la création ou pas, et de quelle façon elle l'est. Et du coup, j'aimerais aller vers ça. Voilà. En attendant, je veux faire infirmière libérale, parce qu'au moins, je suis plus fermée dans un hôpital. Je trouve que les hôpitaux sont beaucoup, malheureusement, dans le morcellement du patient. Il y a les fesses là, il y a la tête là, il y a le bras là, et puis on essaye de faire avec tout le monde, mais on n'y arrive pas. Le travail en réseau, il est franchement compliqué. Donc, moi, mon souhait, ce serait ça, ouais. Faire infirmière libérale, art-thérapeute plus tard. Voilà. Et mes enfants ont accès à la bibliothèque gratuitement, au musée gratuitement, il y a l'étude le soir. Elles redémarrent l'orthophoniste bientôt, donc elles sont aussi, elles ont évolué en 2 mois, la petite a appris à lire. C'est-à-dire que la petite est au CE1, elle a un niveau CP, mais elle commence à lire quelques phrases. Elle a eu un déblocage, mais énorme en 2 mois. Voilà. Et la grande, c'est un peu plus dur pour elle de se réintégrer parce qu'elle est en CM2, donc on est un peu plus dans la rétention à cet âge-là pour faire des copains, mais ça se passe bien aussi, quand même. Voilà. On croit que là-bas, parce que les gens nous accueillent avec des couronnes de fleurs, ont le sourire, et il fait beau, que c'est vive la générosité, qu'il n'y a que là-bas que c'est possible. C'est pas vrai du tout. Je suis arrivée ici en plein hiver, alors c'est vrai qu'on se les gèle, il fait froid. En plus, ça faisait au moins 50 ans qu'il n'y avait pas eu de brouillard, comme par hasard, on arrive à cette période-là. Mais j'ai trouvé les Lyonnais hyper accueillants, gentils. C'est-à-dire qu'après, ça se fait dans les deux sens, la communication. Hein. Moi, je suis du genre quand même à aller parler et je tombe sur d'autres personnes qui me parlent aussi en retour. Je ne suis pas du tout face à des gens fermés. Je retrouve le côté un peu rock qu'il n'y a pas du tout sur les îles. Voilà, je suis retournée au musée du Vieux Lyon. On voit bien le côté révolutionnaire qu'il y a eu quand même ici. Hein. Ça, sur les îles, du coup, on est plutôt dans le côté mielleux, cocotier, souriant. Et de revenir à Lyon, ça éveille en moi une âme de révolutionnaire. Voilà, donc je veux témoigner tout ce qu'il y a à témoigner. Je veux aller dans les musées, je veux aller en concert, je veux faire plein de choses.
Yeah.